Alors, on regarde ce que Dieu nous a donné. Et une des choses qu'il nous a donné, que je veux qu'on regarde ce soir, c'est qu'il nous a donné la provision. Amen. Alors, on va aller à Philippiens 4. Oh, gloire à Dieu. Philippiens 4. Merci, Seigneur. Et ici, si on regarde le passage de Philippiens, on sait très bien que l'apôtre Paul était en prison. Et puis, les gens ont venu le secourir avec ses besoins rencontrés financièrement. Ils ont fait parvenir de l'argent à la prison pour lui, pour qu'il sorte de prison. Puis on va lire à partir du verset 10. Il dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié et à avoir faim, à être dans l'abondance puis à être dans la disette. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » On va aller au verset 17. Il dit, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » On sait très bien que quand les gens pourvoyaient aux besoins de l'apôtre Paul, il y avait un fruit qui commençait dans leur vie. Parce qu'il dit, « C'est pas que je recherche les dons, mais autrement dit, je sais qu'en faisant cela, il y a un fruit qui va abonder pour vous dans votre vie. » Il dit, « J'ai tout reçu, puis je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Autrement dit, quand tu arrives de ta générosité, tu prends soin d'un besoin des autres. Moi, je regarde toujours ça comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et là, il parle à ces gens-là, puis c'est là qu'il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Voyez-vous, l'apôtre Paul, s'il y en a un qui sait comment Dieu pourvoit, c'est bien lui. Puis de voir comment les gens agissaient à son égard, bien il dit, « Ma prière ne peut pas être autrement que mon Dieu, je le sais, qui va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, puis ça va être avec gloire, puis ça va être en Jésus-Christ. » Amen. Alors, l'apôtre Paul sait comment nommer, si vous voulez, le Dieu qui prend soin. Au lieu de juste dire, en tout cas, j'espère bien que vous allez réussir à être bénis un jour, vous autres aussi, hein? Non, non, c'est pas comme ça qu'il parle. Amen. Quand qu'il voit, moi ça, toujours, s'il y a des gens qui me bénissent, c'est toujours, Père éternel, je le sais, que je ne recherche pas les dons, mais je recherche le fruit qui abonde. Puis je le sais que le fruit qui va abonder dans leur vie, ça va être que toi, mon Dieu, tu vas pourvoir à tous leurs besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Parce que je le sais comment Dieu travaille. Mais l'apôtre Paul le savait aussi. Dans la Bible, le message, vous ne pourrez pas suivre parce que premièrement, il est juste en anglais, puis moi, je l'ai traduit. L'apôtre Paul, il dit, « Vous pouvez être certain que Dieu va prendre soin de tout ce que vous avez besoin. Sa générosité excède la vôtre dans la gloire qu'il déverse de Jésus-Christ. » Notre Dieu et Père abonde dans la gloire qu'il déverse jusqu'à l'éternité. Oui. Il finit par oui, en voulant dire, c'est comme ça. Amen. Alors vraiment, il dit, il va prendre soin, puis il prend soin avec une générosité qui est plus grande que la vôtre. Ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est toujours plus avec Dieu. Amen. Et dans la Bible amplifiée, ça se lit comme ceci, « Et mon Dieu va pourvoir avec libéralité, pleinement, entièrement, chacun de vos besoins en accord avec sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Alors, ça, c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. il pourvoit. Vraiment, comme je dis, s'il y en a un qui sait qu'il pourvoit, puis de toutes les manières possibles, c'est bien l'apôtre Paul. On va aller à Acte 28. Acte 28. Oh, gloire à Dieu. Et puis, ici, ils ont échoué sur une île. Et puis, je vais juste regarder au verset 10. Premièrement, Dieu a pourvu parce qu'il n'est pas mort mordu par une vipère. Après ça, il y avait une onction sur lui pour guérir un paquet de monde de malades sur l'île. Puis au verset 10, ça dit, on nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il a beau échouer sur une île, il a beau être mordu par une vipère, Dieu prend toujours soin de lui. Ça, on appelle ça la provision de Dieu. Dieu pourvoit. C'est sa provision est toujours là. Tu as besoin de guérison, c'est là. Tu as besoin de la paix, c'est là aussi. Ici, après qu'ils ont resté un certain temps sur l'île puis ils devaient partir, ben ils ont dit, ils nous ont fait des grands honneurs, puis en plus, ils nous ont fourni tout ce qu'on avait besoin pour finir notre voyage. Quand ils sont partis, après ça, ils sont arrivés à Rome. Et si je regarde au verset 16, là, ils arrivent à Rome. Après avoir reçu tout ce qu'il avait besoin pour son voyage, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Alors, arrivé là, ça a bien l'air qu'il y avait la maison fournie, lui-ci, et puis ses besoins étaient rencontrés. Si je vais au verset 30, ça dit, « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. » Fait que s'il avait loué une maison, il faut croire qu'en quelque part, il y avait l'argent pour la payer. Amen. S'il avait l'argent, il faut croire qu'en quelque part, Dieu lui a apporté l'argent nécessaire. Puis ça a duré pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il a demeuré dans une maison qu'il avait louée et recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu, puis enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Je suis juste allé voir quelques instances où il a fait naufrage, j'arrive sur une île, le monde pourvoit à tous les besoins, il arrive à Rome, il y a un domicile qui l'attend. Après ça, ils se sont arrangés pour y emmener de l'argent à quelque part. Dieu il a pourvu d'une certaine manière parce que pendant 2 ans, il a été capable de louer une maison. L'apôtre Paul savait comment Dieu pourvoit, de quelle manière il pourvoit. Il savait que Dieu nous donne la provision, quelle qu'elle soit qu'on a besoin. Alors, nous autres, on doit apprendre quelque chose avec le Seigneur. C'est que la provision est toujours là. Toujours là. On doit vivre sachant dans notre tête qu'il y a toujours une provision pour le besoin quand il se présente. Premièrement, ça prend un besoin. Parce qu'il pourvoit tes besoins. Si tu n'as pas de besoin, mais là, la provision n'est pas nécessaire. Mais si tu as un besoin, la parole de Dieu dit qu'il pourvoit tous tes besoins. Pas juste un. Puis dire, bon, ben là, le Seigneur, il a vraiment rencontré notre besoin. Puis là, c'est quasiment comme s'il ne fera plus jamais rien après ça. Non, il pourvoit tous tes besoins. Aussitôt qu'il s'élève un besoin. Mais nous, on doit être conscients de cela. Puis quand je parle de l'apôtre Paul, je démontre vraiment que lui, il en était conscient. Que Dieu pourvoirait continuellement, peu importe le besoin. Il a beau être en naufrage, Dieu prend soin. Dieu va pourvoir une façon de faire avancer le bateau près d'une île, puis c'est là qu'ils vont échouer. Et puis, quand ils sautent à l'eau, il y a des morceaux de bois qui ont dit, puis ça les a aidés à flotter jusqu'au bord. Rendu sur l'île, Dieu il a pourvu à ses besoins par de la guérison. Après ça, Dieu il a pourvu à d'autres besoins qui étaient d'être reconnus comme des hommes de Dieu. Puis quand ils ont prié sur les malades, ils ont été guéris. Après ça, il y avait besoin de choses pour se rendre à Rome. Dieu il a pourvu à leurs besoins. Dieu pourvoit. Puis l'apôtre Paul était conscient de ça. Nous autres sommes-nous conscients de ça? Parce que si tu vis comme l'apôtre Paul et que tu as la révélation à l'intérieur de toi que Dieu va toujours, toujours, quand le besoin se présente, préparer un avenue pour toi parce qu'il pourvoit. C'est un Dieu qui pourvoit. Il faut le voir, Dieu, comme Il prend soin. La provision est toujours là. Il pourvoit à nos besoins. Alors, quand on s'en va dans la vie puis il se présente quelque chose, on n'a pas besoin d'être inquiète. Parce qu'on sait qu'il pourvoit à tous nos besoins. Avec sa richesse, avec gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est vraiment quelque chose d'arriver à cette place-là. Puis de ne pas faire connaître tes besoins à Pierre-Jean-Jacques, là. Que tu le sais qu'il va pouvoir. Il est là, il est présent, il est puissant, il est avec toi. Il ne t'a jamais délaissé, il ne te délaissera jamais, puis il va toujours être là. Amen. Gloire à Dieu. C'est sûr que pour arriver à cette place-là, il ne faut pas que tu sois une personne qui vit de la condamnation. On va aller à 1 Jean 3. 1 Jean 3. Et puis, je vais lire le verset 21. Parce que j'aime les lire à l'envers, ces versets-là. On va commencer par 21. Ça dit, « Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Ça, c'est sûr et certain. Si on passe notre temps à se dire, « Oh, ben moi, je ne suis pas pareil comme les autres, puis je ne fais pas grand-chose, puis je ne suis pas bien utile à grand-chose, puis toutes ces choses-là, tu n'arriveras pas avec assurance devant Dieu. » Amen. La parole de Dieu nous dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, on a de l'assurance devant Dieu. » Après ça, si je vais au verset 20, ça dit, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu, il est encore plus grand que notre cœur, puis il connaît toutes choses. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous autres, des fois, on va se condamner. On va se dire, « Ah, ben je n'ai pas fait grand-chose pour le Seigneur dernièrement, ou je n'ai pas fait ça comme il faut, puis je pense que le monde n'avait pas l'air bien, bien content, puis moi, je ne vaux pas bien, bien plus que les autres. » Mais si ton cœur te condamne, j'ai une petite nouvelle pour toi, Dieu, il est plus grand que ton cœur. Amen. Puis Dieu, lui, voit ton cœur, et puis lui, il n'envoie pas de condamnation. Amen. Fait que Dieu, lui, il est capable de regarder qu'est-ce que tu as vraiment dans ton cœur. Toi, tu peux arriver de te condamner. Mais qu'est-ce qui arrive, par exemple, c'est quand on se condamne, c'est nous autres qui s'enlève de l'assurance devant Dieu. On ne devrait pas faire ça. Amen. Mais c'est une chose qui peut nous bloquer. Parce que moi, ce soir, je veux vraiment, on va aller dans des exemples de la parole de Dieu, je veux vraiment vous démontrer que Dieu nous donne toujours la provision. Toujours la provision. C'est fait. Elle a la provision. Elle est prête. Mais il ne faut pas que notre cœur nous condamne. Fait que si tu commences à te condamner, au moins, finis ta prière en disant, après ton chiolage de condamnage, là, bien, finis en disant, au moins, Seigneur, t'es plus grand que mon cœur, hein? Fait qu'au moins, toi, tu vois toute chose, fait que j'ai quand même de l'espérance. Au moins, ouvre-y la porte, parce que la provision, elle est là. Dieu, il nous a donné la provision, puis c'est ce qu'on va voir aussi dans la parole de Dieu. On va aller à Hébreux 4. C'est pour ça que je tenais à vous montrer ces deux écritures-là, puis lisez-les à l'envers. Dire, je manque d'assurance parce que je me condamne, mais t'es plus grand que mon cœur. Merci Seigneur. Au moins, fini par le verset 20. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit au verset 16 de Hébreux 4, « Approchons-nous donc avec assurance, pas avec condamnation, avec assurance, du trône de la grâce. » Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faut que tu t'approches avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Autrement dit, pour profiter de toute la provision que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que ça donnerait de t'approcher du trône de grâce si tu as de la misère à croire que Dieu va pourvoir? Va même pas te tenir là, là. Non, mais tu sais, moi j'aime ça me tenir devant le trône de grâce parce que, premièrement, je le sais que c'est un trône de grâce et de miséricorde, puis je le sais que quand j'échappe à un besoin, il en prend soin. Amen. Mais si, amen, c'est un trône de grâce et de miséricorde pour un but. Le trône de Dieu, là, c'est un trône de grâce, de faveur, de miséricorde, parce que Dieu, il a un but. Son trône est tellement extraordinaire qu'il veut pourvoir à tous nos besoins. Il est dans le but de secourir nos besoins, parce qu'il est la provision. On va aller à Genèse 22 maintenant. On va regarder une histoire de la parole de Dieu à propos d'Abraham. Et puis, Dieu l'a mis à l'épreuve. Puis quand Dieu met à l'épreuve, ce n'est pas de la maladie. C'est toujours des tests de foi. Amen. Il veut voir si tu vas obéir, foi et obéissance. Il veut voir si quand il te demande de quoi tu vas le faire. Ça, c'est l'épreuve que Dieu va te mettre, placer devant toi, toujours. La maladie, ça ne vient pas de lui, il n'est pas pour t'en mettre. Il ne sait même pas où la prendre. La seule chose qu'il connaît, c'est la guérison. Alors, au verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Là, il est sûr de ne pas se tromper, hein? Parce qu'il y a un fils avec Agar, mais il aimait bien mieux Isaac qu'il avait eu avec Sarah. Fait que Dieu dit, « Prends ton fils, OK, ton unique, OK, celui que tu aimes, ah ben, puis Isaac. » Fait que Dieu ne peut pas être plus précis que ça, OK? Il dit, « Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Il faut que vous sachiez que la parole de Dieu nous dit que c'est une promesse qu'il avait eue de Dieu, ce fils-là. Ça lui a pris 25 ans à l'avoir, ce fils-là. Il s'est tenu par la foi, puis il avait 100 ans, puis Sarah en avait 90, puis elle était stérile. Il s'est tenu par la foi pour l'avoir, ce fils-là. Puis Dieu lui a promis une descendance de ce fils-là, puis il a dit de sa descendance, de toute la descendance, toutes les familles de la terre pourront être bénies. Puis là, Dieu dit, offre-le en sacrifice. C'est comme, tu viens de me le donner, Seigneur, puis là, tu me dis de te le redonner. OK. Alors, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il était mieux d'être à la bonne place. Puis on va voir pourquoi tantôt. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Autrement dit, t'es mieux obéir à Dieu que marcher par la vue. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Merci Seigneur que c'est nous autres qui possèdent la porte, puis ils ne rentreront pas. Amen. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors moi, je veux qu'on voit trois choses aussi. Quand tu crois que Dieu pourvoit, tu vis différemment, tu parles différemment, puis tu agis différemment. Quand tu es une personne qui sait que Dieu va pourvoir, que Dieu il est toujours là avec toi, qu'il ne t'abandonnera jamais, que même si tu passes un temps difficile, il est toujours après préparer un avenue de bénédiction, il est toujours après préparer une faveur, une nouvelle circonstance, quelque chose. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir la foi, d'obéir, puis d'être patient. Amen. Mais lui, il prépare les choses. Quand tu vis, quand tu crois cela, que Dieu pourvoit, tu vis différemment. Et vraiment, on peut le voir avec lui, Abraham. Si on va au verset 3, on voit qu'il ne vivait pas dans l'inquiétude. Parce que, aussitôt que Dieu lui a dit ça, au verset 3, ça dit, « Abraham, il s'est levé de bon matin, il a scellé son âne, il a pris avec lui deux serviteurs et son fils, il a fendu le bois pour l'Holocauste et il partit aller au lieu que Dieu lui avait dit. » Tu vis différemment, ça veut dire que tu ne vis pas dans l'inquiétude. Oh, je me demande bien qu'est-ce qui va arriver. Non, tu fais les choses, tu les fais. Un point, c'est tout. Dieu, il dit, supposons, donne, tu donnes, puis point à la ligne. Tu n'es pas inquiète. Dieu, il dit, vends tout, puis pars. Tu vends tout, puis tu pars. Tu n'es pas inquiète parce que tu agis, tu vis différemment. Parce que tu as confiance que Dieu va pourvoir. Que peu importe ce que Dieu te demande, Dieu n'enlèvera jamais. Dieu te donne continuellement. Il y a des gens quand même qui viennent me voir des fois et disent, tu sais, des fois Dieu donne, Dieu enlève. C'est pas vrai. Il ne joue pas avec ta vie comme un yo-yo. Tu descends en bas, tu remontes en haut. Tu descends en bas, tu remontes en haut. Dieu, ce n'est pas un yo-yo. Puis il n'agit pas avec toi comme un yo-yo. Il te donne. Et s'il te demande de le prendre pour le redonner à quelqu'un, c'est parce qu'il veut t'en redonner 10 fois, 20 fois, 40 fois, 100 fois plus. Mais il reprendra, il ne donnera pas de quoi, puis juste le reprendre, dire, « Ah, tu l'as plus, c'est à moi, hein? » Non, c'est pas un idiot. Amen. Lui-même, il dit, donne, puis il te sera donné. Une bonne mesure, bien serrée, secouée, qui déborde. Amen. Alors, vraiment, tu vis différemment. Tu fais les choses comme si tu n'as aucune crainte, aucune inquiétude. Ta vie, c'est comme, Dieu, je le sais qu'il est là. Je le sais qu'il est là. Il m'a demandé d'y aller. OK, on va aller fendre du bois. Viens dans mon petit gars. Il a emmené deux serviteurs avec lui. Puis il est parti pour se rendre au lieu. Il n'y a pas besoin d'être inquiet. Tu vis différemment. Tu ne vis pas dans l'inquiétude. Tu le sais qu'il est là. Tu le sais continuellement qu'il prend soin. Tu parles aussi différemment. Alors, on va aller au verset 7 et 8. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, il répondit, me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Puis ils marchèrent tous deux ensemble. Tu parles différemment. Tu dis pas, « Ben là, papa, il sait pas vraiment. Tu sais, Dieu nous a demandé ça, là, mais papa, il sait pas, mais en tout cas, on verra bien. Hein? » Non, tu parles différemment. Dieu est là. Puis Dieu est capable de pourvoir, puis Dieu pourvoira lui-même. Parce que de toute façon, de nous-mêmes, on ne peut pas rien faire. Mais avec Dieu, tout est possible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait les choses. C'est pas nous autres, c'est lui. C'est lui qui rouvre des portes. C'est lui qui te donne la faveur. C'est lui qui parle à une personne d'ouvrir sa maison. C'est lui qui parle à quelqu'un de dire aide pour quelqu'un réussisse à faire quelque chose. C'est lui qui fait les choses. Ça n'a rien à voir. Fait qu'il dit, se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Ça veut dire qu'il n'est pas trop inquiète. Pas du tout. Amen. Et puis, tu agis différemment. Tu agis pas dans la crainte. Amen. Alors, on va aller voir le verset 4 et 5 plus haut. Ça dit, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Parce que, tu sais, Dieu, il nous a demandé quelque chose de spécial. Puis là, pendant que vous allez rester ici, si vous voulez prier pour nous autres, parce que Dieu nous a demandé, à moi et mon fils, on ne peut pas le dire parce que je ne parle pas négatif. Mais tu sais, je vous donne assez d'indices, par exemple. Tu sais, là, parce que Dieu nous a demandé quelque chose de spécial, puis c'est vraiment demandant. Je peux vous dire, priez pour moi, parce que là, je monte en haut avec mon fils sur la montagne. Non. Quand tu as confiance que Dieu pourvoit, tu parles comme du monde, tu agis comme du monde, puis tu vis comme du monde. Amen. Alors, voici comment il agit. Il dit, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons après cela. Auprès de vous. Tu parles différemment. Tu donnes même pas un indice. Tu agis différemment. Il dit, nous autres, on monte en haut, c'est parce qu'on s'en va adorer, puis après ça, on va revenir auprès de vous, puis tout va bien aller. Tu le sais que Dieu, il t'a demandé de quoi? Puis si Dieu, il te l'a demandé, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de grandiose. Merci que Abraham y a obéi. Puis vous savez, dans Hébreux, là, c'est bien écrit que toutes les promesses sont pour ceux qui ont la foi comme Abraham. On a des petites choses à apprendre, hein? De commencer à parler comme du monde, à agir comme du monde, puis pas démontrer que ça va pas, puis toutes ces choses-là. C'est Dieu qui récompense, c'est Dieu qui rémunère. Même Moïse était comme ça, on va aller à Hébreux 11. Hébreux 11. Et puis, Moïse était un homme comme ça, qui voyait les choses différemment, qui agissait différemment, parce qu'il marchait par la foi, puis il savait que Dieu pourvoyait. Dans Hébreux 11, ça dit au verset 24, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » C'est quelque chose de refuser ça, là. Tu sais, là, t'as le privilège d'être le fils de la reine d'Angleterre. Puis tu refuses ça. Mais tu as été élevé dans cette maison-là toute ta vie, là. Puis la fille de Pharaon, c'était ta mère pour un temps, là. Ta mère adoptive, là. Tout, c'est rien qu'elle que tu as connue jusqu'à temps que tu deviennes grand, là. Faut pas dire, oh, moi aussi, je refuserais. Hey. Tu sais, veux dire. Il faut se mettre dans la peau de Moïse. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération ou sur le Dieu qui pourvoit, sur la provision, sur comment Dieu va prendre soin. Il aimait mieux être maltraité que pour un temps avoir la jouissance du péché. Ça veut dire qu'il aurait marché, autrement dit, dans la peur et l'inquiétude, puis il aurait dit, « Mais là, je ne peux pas tout lâcher ça. » Franchement, moi, être maltraité avec eux autres, je peux mourir demain matin. Regarde qu'est-ce que je laisse un fou d'une poche. Il aurait eu la jouissance du péché pour un temps. Mais à la place de ça, il regardait l'opprobre de Christ. Ça veut dire que Moïse regardait déjà à Jésus-Christ. On sait très bien que quand il était dans le désert, une fois, il a mis une perche Et puis, il a mis un serpent de rein. Eux autres, ils regardaient à la venue de Christ. Ils disaient quand, d'avance, ils savaient qu'un sauveur viendrait et puis qu'il ferait tout pour remettre le peuple de Dieu dans la position qu'on a été créé. Ils le savaient. Puis, il aimait mieux regarder ce que Jésus ferait un jour que pour un temps avoir la jouissance du péché. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la provision qui était là. La rémunération, c'est la récompense que Jésus nous a emmenée. Puis la récompense qu'il nous a emmenée, c'est la provision. Il a pourvu au salut, il a pourvu à la guérison, il a pourvu à la paix, il a pourvu à l'unité, il a pourvu à la délivrance, il a pourvu à de la provision physique, matérielle, financière. Il aimait mieux avoir les yeux là, que pour un temps, voir la jouissance du péché, même si c'était le palais royal qui était là, où ce qu'il avait passé sa vie, dans la plus belle des chambres, avec les plus de serviteurs possibles, les plus beaux habits, tout le monde à ses ordres, manger rien, qu'est-ce qu'il voulait manger, il voulait un hamburger un soir, il était servi sur un plateau d'or. Il a refusé ça. Ça, c'est d'avoir confiance à la provision. C'est d'avoir confiance que ça vaut la peine de suivre Dieu. Amen. Quand tu crois que Dieu va pourvoir, tu vis différemment, tu parles différemment, puis tu agis différemment. Tu n'agis pas dans la peur, tu n'agis pas dans la crainte. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Tes agissements suivent ton langage. Amen. Tu ne fais pas connaître tes besoins à tout le monde. Tu es fait connaître à Dieu. Comme, exactement comme Abraham. Abraham, il est arrivé, puis il a dit, il n'a pas fait connaître ses besoins. Il n'a pas dit, ça fait trois jours qu'on marche, là, puis je n'ai pas dit un mot. Mais si vous saviez comment j'ai prié par en dedans, par exemple. Mais là, vous autres, vous restez ici, puis je vous commanderai de prier bien gros. Parce que ça va être tough. Ce que Dieu me demande, là, je ne sais même pas si vous autres, vous pourriez le faire. Il parle-tu de même? Non. Il ne parle pas comme ça. Non, parce que sa confiance est en Dieu. Parce qu'il disait, on va monter, on va prier, puis on va revenir. Son fils a dit, oui, mais papa, on a le feu, puis on a le bois, mais où est-ce qu'est l'Holocauste? Et tu vas voir que Dieu va se pourvoir. Lui-même pour l'Holocauste. Puis il n'y a pas à dire. Il a attaché son fils, il est allé jusqu'au bout. Puis là, l'ange a dit, wow, 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 OK, OK. Quand Dieu te demande de quoi tu le fais, là, on le sait, là, on le voit. OK. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, verset 12, et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham y est allé le prendre puis l'a emmené sur l'autel. Autrement dit, quand Abraham montait avec son fils, il avait besoin d'une provision, lui-là, là, parce qu'il ne voulait pas vraiment, dans un sens, perdre son fils. Amen. Mais pendant qu'il obéit à Dieu, puis qu'il met ses yeux sur Dieu, sur l'autre bord de la montagne, Dieu fait monter la provision. Puis quand il est arrivé en haut, la provision est à l'eau. Il s'est reviré de bord, puis il a vu que Dieu s'était pourvu lui-même d'un holocauste. Il y avait un bélier pris par les cornes dans le buisson, il l'a emmené, il l'a mis sur l'autel, puis il l'a offert à Dieu. Dieu dit, parce que tu as fait ça. Parce que tu as fait ça, tu as obéi quand Dieu t'a demandé la chose la plus précieuse qu'il t'avait donnée. Tu sais, Dieu, il te donne une belle auto neuve, puis après ça, supposons que Dieu dirait, donne-la. Il te met des fois à l'épreuve, pas parce qu'il la reprend lui, il veut juste voir si tu vas obéir. Il veut juste voir, il faut que ce soit Dieu qui parle. Il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit une fois, il était aux États-Unis, il a dit, « Si Dieu veut que je retourne au Québec, il a besoin de m'apparaître dans mon salon à pleine face comme ça. Sinon, j'y vais pas. » Mais voyez-vous, puis je suis pas mal certain que mon mari doit penser, si Dieu me demanderait de donner mon auto, Donne-moi un grand signe dans le ciel. Mais voyez-vous, parce qu'il a obéi, Dieu, il y avait la provision de l'autre côté qui montait. La même montagne que Abraham est allé pour immoler son fils, c'est la même montagne que Jésus a monté pour mourir sur la croix. Puis quand Jésus montait sur la montagne, il montait avec tous nos besoins. Quand il traînait la croix puis il souffrait, il montait avec les besoins financiers qu'on aurait. Parce que la parole de Dieu dit, c'est par grâce. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que pour vous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il montait avec tous les besoins physiques, les maladies, les liens que les gens peuvent avoir, tous les besoins physiques. Il montait la montagne, puis il était le Fils unique, chargé du bois, puis il allait être immolé sur la croix. Mais pendant qu'il montait, Jésus est aussi devenu la provision. Parce qu'il s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Il a souffert les meurtrissures dont nous avons été guéris. Il a subi le châtiment qui nous donne la paix. Fait que c'est pour ça qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de grâce afin d'être secouru dans nos besoins. Parce que Jésus l'a fait pour nous. Il a monté nos besoins, puis Dieu l'a transformé en provision pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, s'il y en a qui ont de la misère à croire que Dieu va pourvoir, c'est parce que vous avez de la misère à croire que Dieu a traîné vos besoins. Dieu était capable de pourvoir à la provision. Il savait que quand Jésus souffrirait, la provision viendrait pour nous. Il savait que quand Jésus il enlèverait sa robe d'un grand prix qu'il avait sur le dos, il était dépouillé même financièrement de ces choses. Il savait que ça l'amènerait une provision financière pour nous. Il prenait notre place. Amen. Puis vraiment, l'histoire d'Abraham, c'est un prototype. Un exemple. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux que les histoires de l'Ancien Testament nous servent d'exemple. Puis ils sont comme des prototypes. La parole de Dieu nous dit que c'est comme un ombrage de qu'est-ce qui allait devenir réel. Fait que tu regardes ça, puis en fin de compte, Abraham, c'était le père d'Isaac. Isaac, c'était son fils unique. Il l'aimait. Il a coupé du bois, puis il a chargé du bois, puis il a monté avec lui. Quand Jésus montait, là, son Père, Dieu le Père était là aussi. Puis il montait la provision pour nous. Dieu pourvoit. Dieu nous a donné la provision. Quand il nous a donné son fils Jésus, il savait que Jésus obéirait comme Abraham a obéi. Amen. Il le savait qu'il se laisserait immoler. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez très bien qu'il a dit lui-même, « Je pourrais invoquer mon Père, puis mon Père enverrait des légions d'anges, puis je partirais d'ici comme ça. Mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire jusqu'au bout ce que j'ai à faire, exactement comme Abraham a fait. Mais Jésus, lui, est mort sur la croix pour nous. Amen. En gloire à Dieu. » Puis à cause de cela, il a pourvu. Il a pourvu à tous nos besoins. Fait qu'on n'a pas besoin d'être inquiète pour nos besoins. Amen. Pendant que les besoins montaient, la provision montait aussi quand Jésus y est monté. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va aller à Romains 10, 12. Romains 10, 12. Ça dit, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche. » Est-ce qu'on sert un Dieu qui est pauvre? Non. « Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » On sait que le mot « sauvé » inclut tout au complet. Dieu y est riche. Je vais vous le dire dans la Bible Message, la même parole. Ça dit, la parole nous réassure. Il n'y a personne qui fait confiance à Dieu de tout son cœur et de toute son âme qui va le regretter. C'est exactement la même chose. Peu importe de quelle religion vous pouvez être, le même Dieu de tous agira toujours de la même façon généreuse et incroyable pour chacun qui appellera à son aide. Invoquer Dieu, c'est appeler à son aide. T'appelles à son aide, il va toujours agir de la même façon. Tu vas prendre le pire criminel qui serait dans pris en quelque part, puis il se met à crier de l'aide, puis à Dieu pour avoir de l'aide. Dieu, il va être riche en provision pour lui, généreux, incroyable, peu importe. C'est pour ça que la Bible a dit que tu sois juif ou grec, ça ne fait pas de différence. Dieu, il est riche pour tout le monde qui veut l'invoquer. Amen. Qui va crier à son aide. Dieu, il est riche. Amen. Peu importe la grandeur du besoin. Moi c'est ce que j'aime avec Dieu. C'est que tu peux avoir 5000 personnes qui suivent Jésus, qui ont faim et pourvoient. Tu peux avoir tout un peuple qui est en esclavage. Dieu, il est fait sortir de là avec toutes les richesses de l'Égypte. Il est conduit avec un nuage qui les protège durant le jour, puis un nuage qui les réchauffe durant la nuit. Parce que dans le désert, il fait froid la nuit. Même ça peut geler dans le désert la nuit. C'est grandiose. Pourtant, il peut faire aussi des choses minimes. Il est aux noces de Cana, puis il manque de vin. Hey, c'est-tu assez important? Les religieux, il aurait dit, il y a assez de monde qui meurt de faim. Voyez si on est obligé de changer l'eau en vin. C'est minime, mais Dieu, il prend le temps parce qu'il pourvoit. Il est la provision. Amen. C'est comme le pasteur qui s'en va en auto, et puis dans son thermos, il y a du vin. Et puis, il se fait arrêter par la police. Puis là, la police a dit, c'est quoi, vous vivez là? Il dit, de l'eau. Puis la police a dit, passe-moi non ça, puis il goûte à ça, il dit, c'est du vin. Il dit, encore, changez l'eau en vin. Je ne comprends pas ça. Il l'a encore fait. Oh, mais Seigneur, j'ai essayé, moi, ça ne marche pas. Non. Mais peu importe la grandeur du besoin, il pourvoit. Que ce soit, comme j'ai dit, 5000 personnes qui ont faim, ou que ce soit aux noces, puis le monde manque de vin. C'est-tu vraiment important, quand ça fait déjà une couple d'heures ou une couple de jours qu'ils sont après s'enivrer, de changer de l'eau en vin parce qu'ils n'ont pas fini leur party? Mais c'est un Dieu qui pourvoit, puis il faut le rentrer ici, dans notre petite tête. Amen. Dieu pourvoit. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu va le faire surnaturellement, puis il peut le faire aussi très naturellement. Mais à plusieurs instances dans la parole de Dieu, on a vu une veuve qui avait juste un vase d'huile, puis Dieu lui a dit juste d'agir par la foi, puis d'aller emprunter des vases, puis elle s'est mise à verser. Puis toutes les vases qu'elle avait empruntées se remplissaient avec le même petit vase d'huile. Dieu multipliait. Jésus avait des impôts à payer, puis Pierre. Bien, il a dit, va à la pêche. Avez-vous remarqué qu'il y a toujours de quoi qu'on doit faire? Parce que la foi, ça l'agit. Il dit, va à la pêche. Le premier poisson que tu pogneras, rouvre la bouche. D'abord, c'était quelque chose. Il n'a pas demandé quelque chose de difficile. C'était ça qui était son métier à Pierre. Il y avait une compagnie de pêche. Il y avait des bateaux, puis les autres, ils allaient à la pêche toute la nuit avec des grands nets, fait que c'est pas dur pour lui d'aller à la pêche. Amen. Dieu ne te demandera pas de quoi être difficile. Il dit, rouvrez la bouche, il te demande juste de le croire. C'est sûr et certain qu'avec ses grands filets, c'est pas arrivé souvent qu'il a ouvert la bouche puis il a trouvé de l'argent dans la bouche du poisson. Mais là, Dieu ne demande pas de quoi de difficile, il est capable de le faire. Dieu ne te demandera jamais de l'impossible. C'est lui qui fait les choses impossibles. Il te demande juste de le croire. Tu penses, Seigneur, que ça va marcher? C'est, moi, la foi, c'est mon sujet préféré. Préféré. On est arrivé ici avec moins 10 $. Amen. Oui, parce que je l'avais emprunté à mon père. Puis la chose est con, il n'a jamais remis. Parce qu'il fallait mettre de l'essence, c'était pas cher dans ce temps-là. Et puis on partait de Drummondville, puis on venait ici à Sherbrooke, puis on rencontrait des agents d'immeubles pour trouver un endroit pour partir notre église. Puis il disait, comment le monde dans l'église? I don't know. Sais-tu, moi? Pick a number. Choisis un chiffre. 50. Il dit, comment gros vous voulez qu'elle soit? Bien, au moins pour 100 personnes au début. OK. On a commencé comme ça. Vous allez dire, oh, oui, mais ouais, vous deviez avoir des cellis, puis des rières, puis... Hey, non, on ne rit plus pantoute, là. Ni rières, ni je riais pas hier, puis ni aujourd'hui non plus. OK? On n'a jamais eu ça, ces affaires-là, nous autres. Non. On avait tout pris pour aller à l'école biblique, puis quand on est revenu de l'école biblique, on a travaillé pendant 7 ans, 6 ans pasteur. On avait chacun un petit job, pastorial et moi. Puis là, c'était nos filles qui allaient à l'école biblique. Puis il fallait envoyer 1 200 par mois. Puis on a fait ça pendant 5 ans. Ça fait que l'argent, on n'avait pas. Fait que quand Dieu il a dit c'est le temps d'aller à Sherbrooke, commencer une église, c'est lui. Amen. Tout ce qu'il ne te demandera pas que. C'était pas difficile, une église. Ben oui, c'est bien facile, ça. C'est correct. Tu es capable d'enseigner, ça fait déjà 7-8 ans que tu enseignes. Non, c'est bien, OK, gloire à Dieu. Puis il y avait déjà une douzaine de personnes à l'église. Ici, à Sherbrooke, je veux dire, qui nous attendaient, gloire à Dieu. Mon Dieu Seigneur, on avait déjà un public. Wow! Gloire à Dieu. Mais on le fait. Moi, la foi, là, c'est ce que j'aime le plus. Pourquoi? Parce que ça me permet de voir mon Dieu à l'œuvre. Ça me permet de voir comment Dieu il est puissant, puis comment que sa parole est vraie, puis comment qu'il agit, puis Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Et il fait la multiplication des pains, et il pourvoit. S'il doit agir surnaturellement, il va le faire, puis il agit toujours d'ailleurs surnaturellement, parce qu'il parle à un, il parle à l'autre. C'est pas nous autres qui dit nos besoins. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Amen. Et puis, Dieu, des fois, il va donner faveur à une place. Il va te faire avoir une bonne chose à l'autre. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va terminer avec Éphésiens 1. Dieu pourvoit tous nos besoins. Éphésiens 1. Et puis, je vais lire le verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous, qui nous a bénis, et nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il nous a bénis. On ne peut pas changer ça. Même dans l'Ancien Testament, le roi, il avait payé, il voulait payer un prophète, puis il dit, là, ce peuple-là, maudit-les. Quand tu vois qu'il arrivait pour ouvrir la bouche, Dieu l'arrêtait, puis Dieu, il disait, pourquoi tu les as pas maudits? Il dit, je suis pas capable, ils sont bénis. Tu peux pas maudire ce qui est béni. Puis le roi était vraiment après choqué en dernier, hein. Et il l'a emmené ailleurs, puis il dit, je te dis de les maudire. Il dit, je peux pas les... Il se mettait à parler, puis il disait, c'est un peuple qui vit dans les verts pâturages. Puis il disait, je te dis pas des bénis, ben dis, je suis pas capable. Des maudire, ils sont bénis. On est bénis, tu peux pas maudire ce qui est béni, c'est trop tard. Tu peux pas. Quand même que quelqu'un arriverait devant moi, puis il descendrait tout ce que tu veux du ciel, là, puis il parlerait toute la méchanceté, tu ne peux pas. Si toi, tu commences à croire les choses, puis à commencer à dire, oh mon Dieu, il a dit ça, puis je me demande si ça va arriver, bien là, tu l'appelles toi-même. Autrement dit, tu dénies que tu es béni, puis tu vires de bord. Mais si tu sais que tu es béni, je suis béni. Nous sommes bénis. On est un peuple béni. La parole de Dieu nous dit « béni ». Et c'est l'apôtre Paul qui parlait, dit « béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Toutes les bénédictions spirituelles, toutes. Le monde dit « oui, mais il faudrait vraiment que Dieu fasse un miracle. » C'est parfait, parce que c'est des bénédictions spirituelles. Oui, mais hey, ça va être vraiment, là, faudrait quasiment que Dieu, là, il enverrait un chien avec un sac bien plein d'argent. Ça se peut. Il a déjà envoyé un poisson avec la bouche bien plein d'argent. Il a déjà fait couler un vase d'huile jusqu'à temps que toutes les autres vases soient remplies, puis en ait assez pour ses dettes et vivre du reste. Elle en avait emprunté, la madame. Amen. Toute bénédiction spirituelle, tout commence toujours dans le spirituel avant de venir dans le naturel. Il y en a qui essayent de nous dire des fois, « Oh oui, mais on est bénis spirituellement, ça veut dire que Dieu nous aime et puis qu'on va hériter du royaume de Dieu un jour. » Jésus, il a pris la peine de le dire quand il envoyait ses 12, puis après ça, il en envoyait 70. Il a dit, « Allez dans les villages, guérissez les malades, puis dites-leur que c'est le spirituel qui vient d'arriver. » Autrement dit, dites-leur que c'est le royaume de Dieu qui vient de s'approcher. C'est le spirituel. Le spirituel, ça fait du bien. Jésus, il est venu, puis c'est spirituel qui s'est venu. Il est venu au monde d'une femme qui était vierge. C'est vraiment spirituel. Puis tout le temps qu'il était sur la terre, il n'a pas arrêté de ressusciter les morts, de guérir les malades, de multiplier les pains, de payer les impôts des autres, de donner aux pauvres continuellement, d'avoir un trésorier. Oui, ça commence spirituel, mais on a été bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. On est bénis. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? La provision. Il m'a donné la provision. Amen. Il m'a donné la provision. Alors, si j'ai un besoin qui s'élève demain, il m'a donné la provision. Le besoin est là, la provision va être là aussi. Le besoin est là, la provision va être là aussi. Amen. Dieu pourvoit. Gloire à Dieu. Alléluia. On va se lever debout. Oh, merci Seigneur. Je suis béni. Vous savez, il y en a qui ont de la misère à dire ça. Ouais, c'est à les bobos que j'ai, là, je ne dirais pas « je suis béni ». Justement, tu ne sais même pas quel bobo que j'ai, puis je suis béni.
Amen.
Amen. Je ne sais pas quel bobo que tu as, puis toi, tu ne sais pas quel bobo que j'ai. Je suis béni pareil. Amen. Je suis béni. Amen. Je suis béni dans mon aller, je suis béni dans mon retour, je suis béni pendant aussi. Amen. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non pas en dessous. On est béni. Pourquoi qu'on est béni? Parce que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Autrement dit, il nous a apporté la provision, quel que soit le besoin. Mais ça, il faut rentrer ici, puis ici. Amen. L'apôtre Paul était comme ça. Abraham était comme ça. Moïse était comme ça. Joseph était comme ça. C'est pour ça qu'il s'est rendu premier ministre du pays de l'Égypte. Amen. Parce qu'il mettait sa confiance en celui qui pourvoit à tous les besoins. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux juste prier pour chacun de vous ce soir en général, mais je vous ai vraiment dans mon cœur parce que je veux que Dieu rouvre. Rouvre, amène une révélation tellement grande. Il est capable de pourvoir. Puis nous l'a montré dans les exemples de la Bible, comment Jésus, il avait beau regarder, bon, moi, on avait un oncle, nous autres, qui avait 15 enfants. C'est sûr que ma mère allait m'assurer qu'il avertisse avant de venir souper. Tiens. C'est sûr, ma mère, elle a dit, ça ne fait rien que vous veniez, mais dites-nous les deux, c'est vrai. Elle dit, dites-nous les deux jours d'avance, hein, de mon oncle George, tiens. Mais voyez-vous, Jésus, lui, il en a eu 5000 un soir pour souper. Puis il n'était pas averti d'avance. Mais il savait que Dieu pourvoirait. Il savait que Dieu pourvoirait. Puis Dieu nous l'a prouvé dans sa parole qu'il est bien capable de pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Fait que si vous avez un besoin ce soir, savez-vous qui va le combler? C'est Dieu. Fait qu'on va lever des mains vers lui si vous avez des besoins. Puis on va lui dire ce soir. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, tu nous vois ici ce soir à l'église sur le roc, tous les gens ici. Et on s'est appuyé sur ta parole, on a regardé la lumière de ta parole ce soir. Et on peut voir très bien, Seigneur, que tu es un Dieu qui a toujours pourvu et qui pourvoira toujours. Ta parole le dit, Seigneur, tu pourvoyais dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et tu pourvois encore pour ton Église aujourd'hui. On sait très bien que Jésus a pris soin de son Église et continue de prendre soin. Il est la tête. Tu vois tous ces gens ici ce soir qui ont des besoins différents chacun d'eux. Père éternel, je crois dans le nom précieux de Jésus que tu pourvois tous leurs besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Père éternel, je crois que tu rouvres des portes que l'homme ne peut ouvrir, Seigneur. J'appelle l'argent dans leur vie dans le nom de Jésus. J'appelle l'or dans leur vie dans le nom de Jésus. J'appelle les opportunités, Seigneur, les bonnes personnes sur leur chemin. Père éternel, tu places des laboureurs pour amener les gens au Seigneur, mais tu es capable de placer des gens qui ont les moyens, soit qu'ils peuvent parler pour toi, soit qu'ils peuvent te donner. Père éternel, dans le nom de Jésus, on croit que tu parles aux gens pour qu'ils donnent les choses au nom de Jésus. Père éternel, on s'appuie sur toi, Seigneur, comme le pourvoyeur, Seigneur. Tu nous donnes toujours la provision en profusion, en abondance, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Parce que je sais d'avance que tu vas payer des dettes que des gens ont ici ce soir, Seigneur. Parce qu'on les remet, ces dettes-là, en tes mains. Comme tu as payé les dettes de la veuve, Seigneur. Père éternel, je sais que tu vas donner les meilleurs emplois, Seigneur. Père éternel, on s'appuie sur toi, Seigneur, comme le Dieu qui donne la provision. Au nom précieux de Jésus, amen. Amen.